nimm guter Klezmer dein Fiedel in Hand und spiel mir das Liedel von goldenem Land. Am Moll fleckt mein Mamä mit Herz und Gefühl. Das Lied du mir singen, euch spiel es mir Spiel. Am Moll fleckt mein Mamä mit Herz und Gefühl. Das Lied du mir singen, euch spiel es mir Spiel.
L'étoffe de la langue, Stoff und Sprach, The Fabric of Language, une émission conçue et réalisée par Isabelle Rosenbaumas. Cette émission est une enquête auprès de ceux qui tissent le matériau précieux du yiddish. Autant dire que nous allons suivre des fils. La langue yiddish a été pendant ces dernières décennies une planète qui se réveille plus tôt en été. Celle des séminaires, programmes d'enseignement, conférences spécialisées, stages de klezmer, voyages à thème. Pourtant, des milliers d'utilisateurs, pas toujours rigoureux, du mameloshen et du tateloshen, ont dans l'oreille une langue colorée, entendue à la maison et dans les chansons. Je tente ici de jeter un pont entre ceux qui se souviennent et n'ont parfois gardé du yiddish que le sentiment douloureux de la perte et ceux qui maintiennent et élaborent la langue. Une fois par mois, en anglais ou en français, parfois en yiddish, nous présenterons ici ceux qui en connaissent les arcanes et la transmettent à de nouvelles générations. Qui sont les orfèvres qui forgent nos dictionnaires et notre lexique, élaborent nos manuels d'apprentissage? D'où sortent les poètes et les traducteurs d'aujourd'hui, les rédacteurs de nos journaux et les organisateurs de nos séminaires? Et d'où nous viennent les chefs de chœur, les acteurs de la scène yiddish, qui montent ou adaptent le répertoire, les geeks qui créent les applications pour étudier le yiddish en ligne et transposent nos dictionnaires dans l'univers digital? Je vous invite à explorer la ruche de notre planète B613, où la langue de nos parents et grands-parents se transforme en friandises d'or.
Und hör ich das Liedel, dann schwebt vor mir bald mein teure Mame, ihr liebliche Gestalt, ihr harziger Schmeichel, ihr zärtlicher Blick. Sie wecken mir auf mein vergangenem Glück, ihr harziger Schmeichel.
Tu m'as parlé de quelqu'un qu'on a tous beaucoup aimé dans les milieux du yiddish à Paris, qui est parti trop tôt, un troubadour et un poète, un chanteur, Jacques Grobert. Est-ce que tu peux me reparler de ces années où vous avez créé en yiddish?
Voilà, oui, c'est justement à ce moment-là, quand je me suis retrouvée avoir fait du théâtre et puis être en déshérence parce que la troupe m'a quittée, ou j'ai quitté la troupe, en tout cas la troupe a éclaté plutôt. Je suis restée donc avec cette force et ce désir de création et cette reconnaissance du yiddish. À ce moment-là, j'ai rencontré Jacques Grobert, Violette Schmayer, Paul Spiegelman. Jacques et Violette avaient travaillé tous les deux avec Sarah Gorby,
Paul
donc
Spiegelman,
Paul
qui était le fils de
Spiegelman, qui était le
Léon,
fils de Léon Spiegelman,
un
qui
grand
travaillait dans la
acteur
troupe
du...
du théâtre yiddish de Paris, avec Leyel Fischer aussi.
Ah, il y avait Leyel Fischer, qui me semble comme le maillon manquant de cette histoire aujourd'hui.
Moi, j'ai été très liée avec Leyel, je l'aimais beaucoup, oui.
Alors voilà deux personnages dont je voudrais que tu me parles, Jacques Grobert et Leyel Fischer. Leyel a été la. Leyel me semble me souvenir avoir lu qu'elle avait été l'actrice juive, l'actrice yiddish équivalente à celle que Kafka vénérait pour Valère
Ah,
Novarina.
tout à
Pour
fait.
Valère
Oui, oui,
Novarina.
oui, oui, oui. D'ailleurs, il a fait une émission avec elle.
Ah oui?
Oui. Paul avait organisé quelque chose. On a fait une émission sur France Culture. Valère Novarina a fait quelque chose avec elle, oui.
Ça doit pouvoir se
Oui,
retrouver.
oui, oui.
Mais c'est... Alors...
Elle y allait parce qu'elle était ah, merveilleuse, oui, vraiment. Comme tu dis, ce que dit Kafka
Oui, je pense souvent à elle quand je relis les passages de Kafka sur son actrice
Parce qu'elle
yiddish.
était à la fois... Il y avait une sorte d'émerveillement de l'enfance et d'une grande sagesse d'une vieille femme. Les deux à la fois. Une fatigue de la vie et en même temps un enthousiasme vers la vie.
C'était une rescapée
Et c'était une rescapée, oui.
du ghetto de
Oui.
Vilna où elle a été
Oui.
cachée pendant des années
Oui.
dans des conditions
Oui.
absolument inimaginables.
Alors, elle nous a aidés aussi à ce moment-là, parce qu'elle aimait ce qu'on faisait. Elle sentait que c'était une continuation et qu'elle avait quelque chose
Elle
à
vous a
transmettre.
guidé, vous
Elle
a...
nous a pas vraiment guidés, mais elle écoutait tout ce qui se faisait en yiddish, avec beaucoup d'esprit critique d'ailleurs. Mais avec nous, elle était très bienveillante, oui. Parce
Mais
qu'elle,
je
oui,
considère
elle
cette
sentait qu'on était dans la
interprétation,
continuation
parmi les plus belles que j'ai
pour moi
entendues
aussi.
de certaines chansons.
Pour moi aussi,
Il
oui.
n'y a pas un tempo, pas un phrasé qui soit anodin.
C'est juste, c'est penser, c'est pas seulement chanter, c'est penser. Et ressenti. Et dans chacune de ces intonations, on le sent, oui.
Alors comment travaille ce groupe? À quel...
Alors, ben Jacques et Violette chantaient, donc on les a rejoints. Moi, je les aidais beaucoup aussi à aider à ben j'étais dans ce travail théâtral aussi, tu vois, donc à chercher quelle force mettre en jeu pour exprimer ce qu'on voulait exprimer. Donc, on était vraiment dans cette quête-là.
Vous faisiez des scènes, vous faisiez
Alors, on
des...
faisait des concerts, on a tourné un peu, oui. Et puis c'est là que j'ai commencé à traduire, tout simplement
Voilà,
pour
c'est là que
présenter
vient
les
la
chansons,
traduction.
pour présenter les chansons. On parlait beaucoup aussi du sens puis on cherchait un répertoire, et puis du sens de ce qu'on faisait, de ce qu'on voulait dire. Bon, on travaillait beaucoup, beaucoup.
Violette a fait un disque, d'ailleurs, récemment, avec des chansons
Elle a repris des
enregistrées
choses qu'on a enregistrées à
à cette
l'époque,
époque,
oui.
oui.
Et
Ce disque qui
puis
porte les illustrations très belles de
de
Francine
Francine.
Burgerman.
Et puis Jacques avec sa voix merveilleuse, Nina Chomaïm. Oh, j'ai du mal à parler de
Oui, t'as du mal à parler de Jacques.
Oui,
Alors
Jacques, c'est
on va écouter une de ses chansons alors.
ce que je voulais dire d'abord, c'est que à l'époque, voilà, il interprétait on cherchait à interpréter du répertoire qu'on connaissait ou qu'on recherchait, mais Jacques s'est mis par la suite à créer lui-même des chansons avec une sorte de, enfin, c'est magnifique ce qu'il a fait parce que
Il a écrit parmi nos chansons contemporaines.
oui. De notre humeur contemporaine, en reprenant l'humeur des anciennes chansons, et avec ce regard par-dessus et l'humour aussi.
Verkäufer und find zum Rabier gefunden und mit dem Babelgum.
Babelgum!
Und mir der Zelt der Pessa Grum, was ist gestanden, Teub und Sturm, als er gewählt von Babelgum. Es er gar neiden, on a Blum, oi, wei du Tango, du Poet, gib mir gesangen, mit Leid und Freude. Oi, wei du Tango, du Poet, deine gesangen, schier na Reide.
Mit der Verkäuferin von Stadt bin ich am Maler rein in Rad, hab ihr getroffen, eurer Sot, euer Schott.
Euer Schott!
Hat mir der Zelte besser Gott, was ist gekrochen, euch verdroht, als eine Geschichte ohne Sot. Ist eine Tragödie mit der Spott, oi weh, du Tango, du Poet, gib mir gesungen mit Leid und Freude. Oi weh, du Tango, du Poet, deine Gesangen führen a Reide. Jo bin a Maler in den Räum mit a Verkäufer und fin Schäum, hab ihr getroffen, a Rathräum, tschiribim. Chirebom, chirebim, chirebom, chirebim, amam. Und sich der Freitag in der Bäum, was ist gestanden? Koim und Koim, mit dem Beginnen, mit dem Träum, mit der Meluche, mit dem Koin, oi, wei, du Tango, du Poet, gib mir Gesangen, wie Sleide frei. Oi, wei, du Tango, du Poet, deine Gesangen, vier nach Reit. Oi weh, du Tango, du Poet, gib mir Gesangen mit Leid und Freud. Oi weh, du Tango, du Poet, deine Gesangen führen alle.
Est-ce que c'est pas toujours ce qu'a fait la création yiddish? Moi, je vois la littérature qui est yiddish comme une œuvre entièrement critique de la tradition, tout en la recréant. C'est ce qui m'attache au yiddish, c'est cette comment dire, cette capacité de trahison du passé.
Je dirais pas trahison, c'est un regard critique sur ce qui a été transmis, sur la tradition transmise. Mais c'est le propre du yiddish, ça, pas tellement de la langue que de toute cette culture, d'avoir voulu faire de cette langue une littérature, parce que la langue porte elle-même en soi la reprise d'une tradition, mais en la remettant en question. Et plus que ça même, c'est juste la reprise en compte de là où on est, d'une tradition transmise dont on ne veut plus, mais qu'on ne veut pas effacer. Toutes les judéo-langues et le yiddish en particulier, puisque parmi les judéo-langues, elle a eu le sort le plus vaste, le plus large et la plus grande efflorescence culturelle, le plus grand bassin aussi, mais aussi dans le temps, qui est de une traduction. Parce que pour moi, toutes les langues, les judéo-langues sont langues de traduction. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, que je suis restée si attachée dès le moment où je suis venue vers le yiddish, parce que j'ai découvert ça. Il s'agit là de faire passer dans la langue que l'on parle avec les peuples parmi lesquels on vit, de faire passer les valeurs qu'on tire, qu'on puise du texte de la Torah, et ensuite du commentaire de la Torah, c'est-à-dire du Talmud, qui est déjà dans une langue de l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on a affaire là à une langue qui se crée dans le passage déjà des valeurs qu'on puise et qu'on veut amener traduire pas seulement dans l'autre langue, mais dans la vie. C'est-à-dire il y a une transduction, pas seulement traduction, une transposition dans tous les éléments de la vie. Et ce qui fait qu'on est porteur dans cette langue de l'entre-deux, justement, qui est une langue de passage, traduction, mais pas seulement traduction réellement, parce que ça traduit pas seulement d'une langue dans l'autre. C'est la langue elle-même porte en soi déjà ce jeu interne entre les racines hébraïques et les racines déjà du commentaire talmudique en araméen, qui est déjà traduction lui-même, puisque Targoum, c'est traduction. Et là pour le Yiddish, le Taitch, donc la langue judéo-allemande qui est déjà traduction, puisque Taitch veut dire aussi traduction, Taitchen, traduire dans cette langue de l'entre-deux, on porte là des valeurs qui font que dans sa langue, on est à la fois du soi et de l'autre, qu'on est à la fois du passé, du présent et du futur. C'est-à-dire qu'on amène, on met en mouvement quelque chose qui pourrait sembler déjà mort dans les textes, qu'on fait revivre et revivre dans la langue. Et il y a un jeu permanent qui fait qu'on est attaché à ces valeurs sans être collé. Il y a une distance et un jeu qui fait que là, on a un regard sur soi, on a recréation, on a de l'humour aussi par rapport à ce qu'on amène dans le monde.
Oui, le bassin large et le bassin étroit, c'était une expression utilisée par une traductrice d'albanais qui nous a quittés très tôt aussi. Je ne me souviens plus de son prénom, Monchicourt. Christiane, peut-être Monchicourt. Elle parlait de langue à bassin étroit et de langue à bassin large. J'aime beaucoup ce que tu dis sur la transposition, la capacité à aller avec son temps et avec son lieu et à transporter tout cet héritage et à partir de la Torah et cette langue qui se recompose tout le temps avec les langues de c'est toujours comme si c'était la même langue qu'on transportait et qui
se recompose
et qui s'enrichit de toute notre histoire en fait. Et le yiddish évidemment parmi les autres langues juives et peut-être je sais pas en temps, c'est sûr, en spectre géographique, c'est à voir, mais je pense que c'est sûr aussi, sans doute celle qui a le bassin le plus large.
Oui.
Et c'est ce qui fait aussi que j'ai du mal à accepter l'idée, par exemple, que en... Alors, c'est très personnel, hein, qu'en traduisant la langue, on la détruit, c'est-à-dire qu'on abolisse le texte de départ en le faisant transiter vers une nouvelle langue, vers une nouvelle culture, vers un nouveau public. J'ai l'impression que en faisant ce travail, en faisant ce travail interprétatif, on s'inscrit dans cette longue lignée interprétative qui est à la fois celui de la langue et celui de notre culture au sens d'une civilisation basée sur l'interprétation.
Je cherche comment repartir de cette question. Voilà. Alors, parce que c'est vrai que c'est...
Qu'est-ce qu'on fait à la langue quand on va traduire?
Je ne sais pas comment répondre directement à ta question, donc je vais me prendre un petit détour. Parce que non, la question est capitale en vérité. Moi, quand j'ai commencé à traduire, justement, comme je t'ai dit, c'était pour traduire, pour faire entendre le yiddish. Et c'est resté mon projet. C'est-à-dire, j'ai commencé à traduire pour pouvoir dire en yiddish, mais que les gens entendent ce qu'on dit et qu'on le comprenne. C'était les chansons, puis ça a été des poésies, et puis des textes. Mais dans le travail même de traduction, voilà, j'ai l'impression de n'avoir aucune maîtrise, ni de la langue de départ, ni de la langue d'arrivée. C'est-à-dire que quand je suis venue vers le yiddish pour comprendre de quoi j'étais faite.
Car c'est de ça qu'il s'agit.
Voilà. J'étais comme un enfant qui veut apprendre sa langue maternelle, qui parle depuis toujours, et moi je ne la parlais même pas. Et dont je sentais qu'elle n'avait pas place dans le monde, puisque ce monde qui vivait en yiddish de manière si dynamique et vivace autour de moi commençait à disparaître. Et donc c'était recréer ce monde qui n'est plus ou qui va disparaître, le recréer à partir de ce qu'on est nous. C'était le cas aussi pour Jacques et Violette, etc. Et tous les gens que j'ai croisés dans les cours à ce moment-là. Recréer. Donc recréer, on ne recrée pas à partir de rien. Donc il faut se plonger. Alors moi j'ai appris, plutôt que d'aller dans des cours, parce que je n'ai pas eu tellement l'occasion de suivre un enseignement régulier, si je veux dire. J'ai pris à droite à gauche ce que je pouvais. Et surtout, j'ai commencé à traduire tout de suite. C'est-à-dire avec mon peu de connaissances du yiddish, mais ce grand background que j'avais dans l'oreille, j'ai plongé dans les textes. Et donc, n'ayant pas la maîtrise de la langue, il m'a fallu creuser pour aller retrouver d'où venaient les expressions, toute la part hébraïque qu'il y a dans le texte. Et ce jeu justement que je viens d'expliquer, ce jeu qu'il y a entre cette part hébraïque et la part, disons, germanique ou slave, ou, voilà. Le jeu qu'il y a dans la langue, le comprendre et l'amener dans la langue française que je ne maîtrise pas non plus. Donc,
alors ça c'est passionnant parce que tous les grands traducteurs avec qui je parle, et j'ai été amenée à parler hier avec quelques grands traducteurs, aussi, hier soir au mémorial, tous les grands traducteurs avec qui je parle me disent je ne maîtrise ni la langue d'arrivée ni la langue de départ. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit parce que c'est vrai. C'est vrai parce que, pour des tas de raisons, parce que j'ai immigré enfant, parce que j'ai perdu deux langues à 4 ans, parce que, pour des tas de raisons, c'est vrai. Je fais des mauvaises études, enfin, disons les choses comme ça, pour faire court. Mais alors, maintenant, je découvre que des traducteurs accomplis, plus accomplis que moi, disent « Je ne maîtrise ni la langue de départ, ni la langue d'arrivée. »
Zog der Rebbe Rabbe Motenu, a guten Morgen dir Gotenu, Ratsa Ratsa Giba Prikos, Vel mir tun kadine vekadas. Tzadik ime yelchu Upshoye me yeshelubo Bim bom bim bom bim biri bom Tzadiki me yeluchubo Bim bom bim bom bim biri bom Tzadiki me yeluchubo Zog derebi rabbe motenyu A gute Hilfe dir Gottenju. Der Tag ist heiß, die Mille Chome ist schwer. Nur meine liegt nicht weg, das Gewehr. Zadig im Jelchobo. Upshoye me yeshelubo Bim bom bim bom bim biri bom Tzadiki me yeluchubo Bim bom bim bom bim biri bom צדיקים ילכו בו. זוקת רבי רבמותניו אגוטנוף פנדיר גוטניו דר טוב יזווק יחובלץ גמחת גיב מיר גיב מיר ארוי כנח צדיקים ילכו בו ופשעים ישדו בו בים בום בים בום בים בירי בום צדיקים ילכו בו בים בום בים בום בים בירי בום צדיקים ילכו בו.
Ça, voilà, j'aimerais comprendre ce que ça veut dire exactement, ça. J'aimerais mieux approcher cette idée.
Ben, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que le fait de ne maîtriser ni d'un côté... Alors, du côté du yiddish, de ne pas maîtriser, ça t'oblige, il y a une obligation. Déjà, il y a cette nécessité d'aller vers les textes pour les comprendre. Donc, tu es obligé, dans le moment où tu traduis, tu es dans ce passage, tu es obligé d'aller... C'est une lecture extrêmement fine et rapprochée. Tu es obligé de comprendre. Moi, je sais que quand j'ai commencé, je devais me répéter le texte en yiddish pour être sûre que j'avais bien compris la phrase. Il fallait que je mette l'intonation, le rythme. Et après... L'amener dans le français, alors ça se fait pas non plus. Comme j'ai pas de maîtrise du français, je pense pas le texte yiddish tout de suite en français. C'est-à-dire que ça m'oblige à trouver dans le français, à forcer le français, même à s'adapter à ce rythme et à ce sens que j'ai trouvé dans le yiddish.
Ce que tu me dis, c'est comme s'il y avait une langue intermédiaire.
Celle du passage, oui. Exactement. Celle du passage, oui. Exactement. Mmh. Oui. Le passage est comme une marche, voilà. C'est comme on dit qu'on est, tu vois, pour marcher droit. On marche pas droit en fait. Mmh. On a d'un côté sur l'épaule gauche le Yetzer Hore qui t'emmène vers la gauche, sur l'épaule droite le Yetzer Tov qui t'emmène vers la droite, et tu avances comme ça. On te dit va à gauche, va à droite, va à gauche, va à droite. Moi maintenant j'ai cette démarche titubante. C'est une démarche dansante, en fait. C'est-à-dire que tu vas avec ton côté droit et ton côté gauche, et tu avances, et ça te donne... Et cette marche-là, une marche dansante, c'est la traduction.
J'ai constaté aussi que, bon, je m'attendais à lire plus de choses. Je sais que tu es poète. Donc, je m'attendais parfois à lire ta poésie, en français peut-être même.
Mais je n'écris plus maintenant, je ne fais que traduire, et ça prend tellement de temps.
Tu as vraiment centré ton énergie sur la traduction comme si ta vie en dépendait. En fait.
Ma vie en dépend, exactement. C'est le moment où je traduis, c'est le moment où je suis dans une démarche, justement, dans cette démarche dansante, sans rien maîtriser, mais dans l'effort, et qui correspond à l'effort comme si j'avais reçu cette injonction, et en vérité, ça m'est venu en rêve, ça. En rêve, quelqu'un me lançait le livre de mon père. Et je l'ai ouvert, je l'ai feuilleté, comme s'il m'était entré dans la tête, mais je ne sais pas le lire. Donc il est inscrit. Et cette injonction, c'est « traduis-le ». Cette chose que tu as lue, que tu ne sais pas lire, mais qui est inscrite, il faut la faire connaître. Gaille avec, loif, pars avec, cours, va en avant, va de l'avant avec ça. Et il faut passer pour ça par les yeux de quelqu'un qui sait déchiffrer le texte. C'est-à-dire, le texte est là, inscrit complètement, et ce sont mes yeux à moi ensuite qui doivent, bon, dans ce rêve, c'était les yeux d'une femme merveilleuse, les cheveux relevés. Enfin bon, c'est une image pour moi de la traduction, ça aussi. D'avoir c'est comme les cheveux relevés, ça veut dire comme si toutes tes idées, tu te tiens droit. Voilà, enfin tu peux te tenir droit avec tout ce qui est rentré en toi et qui s'est enfoui très profond. Tu peux le relever, le mettre sur ta tête, le porter sur ta tête dans cet acte de traduire qui est de ce que tu as lu, le comprendre et le faire comprendre.
Ça me fait penser, tu sais, au... Bon, la planète, elle est grande. Les gens, ils vont découvrir le monde, ils voyagent, ils traversent des pays, ils prennent des avions. Et puis, il y a des gens qui restent dans leur jardin et qui observent et qui sont attachés au monde à travers une plante, un arbre, un oiseau, qui les relie au monde entier. Et c'est ce centrage sur le texte, ça me fait penser à ça. À Brooklyn, j'ai un arbre devant ma fenêtre. C'est un seul arbre. Je crois que c'est un platane. Enfin, genre, je ne connais pas bien les arbres. Mais j'ai l'impression, et au fond de l'horizon, je vois plein d'arbres. Alors, ils perdent leurs feuilles en hiver et ils tendent leurs hiéroglyphes vers le ciel, tu vois. Mais par cet arbre, j'ai l'impression d'être reliée aux arbres du monde entier, sans sortir oui. de chez moi.
Oui.
Et c'est un peu comme ça que je vis aussi mon travail de traduction, c'est-à-dire c'est une phrase, c'est une page, c'est un paragraphe. Et dedans, quand je l'ai traversé, quand il m'a traversé, quand je l'ai lu et relu, quand il a été mille fois remanié, ce paragraphe, c'est un monde.
Oui, bien sûr.
C'était très, très difficile hier de couper avant une citation. Il y avait le monde dans cette citation. Et donc, je te parlais des citations. Et... parmi tous les auteurs que nous avons traduits, hier nous avons parlé des journaux. Toi, tu as traduit Katz Nelson, le chant du peuple juif assassiné. Moi, j'ai traduit Leib Rochman. Hier, nous avons entendu parler du journal du jeune Moïse Flinker. Il y avait aussi, principalement, et dans le fond, c'était le plus important, la présentation hier de... du déluge, traduit par Rachel Hertel. Et ce que tous ces textes ont en commun, ce qu'ils portent d'une manière, je trouve, très puissante, c'est... Alors, évidemment, quand je parlais de trahison, tout à l'heure, il ne s'agissait pas de la trahison dans la traduction, hein, c'était la trahison de la tradition, c'est pas pareil. Ce que je trouve que ces textes portent, avec le yiddish, je sais que tu as aussi ta manière d'approcher ça. C'est une forme de subversion, quand même. Toujours. Je veux dire, tu ne peux pas les approcher sans tomber chez les plus croyants, chez les plus religieux, chez les plus fidèles sionistes, chez les plus dévots, sur une forme d'ironie, ou de... Enfin, en yiddish, en tout cas, dans la littérature yiddish, d'ironie ou de remise en question ou de regard distancé,
oui,
qui indique, voilà, cette révolte permanente, en fait. Je ne connais pas en yiddish de texte de la soumission.
Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce regard à distance sur ce que l'on porte est déjà dans la langue, tu vois, il y a déjà ce jeu interne d'être du soi et de l'autre en même temps.
Oui.
C'est ce qui est même merveilleux. C'est ce qui est merveilleux là-dedans.
Hoy nem guter klezmer dein fiddle in hand und spiel mir das Lied auf von goldenem Land. Amol fleck mein Mamei mit Herz und Gefühl, das Lied um mir singen, euch spiel es mir Spiel. Amol fleck mein Mamei mit Herz und Gefühl, das Lied um mir singen, euch spiel es mir Spiel.